Vous êtes sur RTL.
Le grand jury. Invité aujourd'hui, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury dans un format particulier puisque la diffusion est uniquement radio et sur RTL.fr. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise donc que vous êtes en direct de votre ministère conformément aux directives du gouvernement. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Dans la seconde partie de l'émission, Muriel Pénicaud, vous débattrez à distance, toujours avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Et puis, questions nettes, vos questions, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous les envoyer. Je les poserai à la ministre en fin d'émission. Hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux. Alors Muriel Pénicaud, vous êtes donc en première ligne au gouvernement dans cette crise sans précédent, car au chaos sanitaire que nous connaissons s'ajoute une crise économique imprévue avec des millions de salariés qui craignent pour leur avenir. Pour éviter le pire, c'est-à-dire des licenciements en masse, vous avez ouvert les vannes du chômage partiel, une méthode qui a fait ses preuves mais qui coûte cher. Mais vous avez aussi adopté des ordonnances jamais vues pour augmenter la durée de travail hebdomadaire dans certains secteurs, et c'est là que le bas blesse. Les syndicats vous le reprochent, nous en parlerons dans ce grand jury et vous en débattrez dans la seconde partie avec le patron de Force Ouvrière. Mais Muriel Pénicaud, avant d'entrer dans cette actualité du coronavirus, on a appris ce matin le décès de Patrick Devedjian, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Quelle est votre réaction à ce décès qui marque la classe politique et au-delà?
Tout d'abord, je voudrais m'associer à la peine de son épouse, de leurs enfants. Patrick Devedjian a eu un grand rôle dans notre pays, à la tête des Hauts-de-France, mais avant comme ministre. Et à travers lui, je voudrais aussi saluer et avoir une pensée pour toutes les familles qui sont endeuillées dans le pays, tous ceux qui craignent de perdre un proche. Je pense qu'on a plus que jamais besoin les uns des autres d'être solidaires et d'être proches de tous ceux qui aujourd'hui vivent cette peine ou la craignent.
Alors Muriel Pénicaud, justement, on va parler donc du coronavirus sous son angle économique, sur l'impact qu'il peut avoir sur l'emploi, sur le marché du travail. Et donc la première question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, l'État a donc couvert très largement l'accès au chômage partiel. Pouvez-vous nous donner des chiffres? Combien de salariés ont-ils eu recours à cette technique?
Oui, alors ce n'est pas les salariés qui ont recours, ce sont les entreprises qui déclarent le chômage partiel pour leurs entreprises. Je le rappelle que le but du chômage partiel, qu'on utilise massivement, c'est d'éviter les licenciements. Moi, mon premier objectif, c'est vraiment qu'on évite les licenciements, car la crainte, l'angoisse, l'inquiétude que tout le monde a sur le plan sanitaire, on n'ajoute pas la peur du lendemain, la peur de perdre son emploi, la peur d'être au chômage dans les jours qui viennent. Et donc c'est pour ça qu'avec le président de la République et le Premier ministre, nous avons décidé d'ouvrir, amplifier, renforcer le chômage partiel pour qu'il soit le plus protecteur d'Europe, ce qui est le cas. Et à date de vendredi soir, nous avions 220 000 entreprises qui avaient demandé le chômage partiel pour tout ou partie de leurs salariés. C'est 65 000 de plus que la veille, pour vous donner une idée de la dynamique. Et ça concerne 2 200 000 salariés, donc là aussi 600 000 de plus qu'un jour avant. Et donc le dispositif est très utilisé. Les principaux domaines, c'est l'industrie, c'est l'hébergement et restauration, bien sûr, c'est la construction et c'est le commerce non alimentaire. Je pense notamment aux garages qui sont très touchés en ce moment. Je crois qu'on peut être fier d'être dans un pays qui va prévenir ces licenciements pour éviter la casse sociale et puis aussi permettre aux entreprises demain de repartir avec leurs compétences.
Mais justement, est-ce que cette technique a permis d'éviter le chômage classique, c'est-à-dire des licenciements définitifs, comme on en a vu aux États-Unis en très grand nombre?
Alors, dans les ordonnances qu'on a prévues et fait passer la semaine dernière, on a élargi à tous les publics, justement, pour qu'il y ait un filet de sécurité pour tous. Donc, on l'a ouvert aux emplois à domicile, aux assistantes maternelles, aux VRP, à tous ceux qui n'y avaient pas droit. Alors, oui, ça remplit son objectif, puisque on a très peu d'augmentation pour l'instant, et j'espère que ça va durer, du chômage. On a eu plus 20 000 inscriptions par rapport à l'année dernière, par rapport à 2 200 000 salariés qui, eux, sont couverts par le chômage partiel. 20 000 de plus pour la troisième semaine de mars par rapport à l'année dernière, par rapport au temps normal. Mm-hmm. Mon inquiétude, c'est plutôt que c'est la chute, évidemment, des embauches. Sauf certains secteurs qui sont la fabrication de masques, l'agriculture, on aura l'occasion d'en reparler.
Elle
peut-être.
Elle est de combien cette chute des embauches, justement, Muriel Pénicaud?
De 70%. Il y a beaucoup moins d'embauches. Donc il faut déjà préserver tout l'emploi existant. Mmh. Et puis ensuite, il va falloir permettre à la machine de repartir pour embaucher ceux qui n'ont pas un emploi. Mais ma priorité déjà, c'est, et je le redis aux entreprises, ne licenciez pas. Utilisez le chômage partiel, vous garderez vos compétences et vous ne mettrez pas vos salariés au chômage. Et
est-ce
je le répète, parce qu'il y a des chômeurs
dites,
qui nous demandent, ça s'appelle chômage partiel, mais ce n'est pas du chômage. Vous gardez votre contrat de travail. Simplement, vous êtes payé à rester chez vous, vous ne pouvez pas travailler, votre activité n'a pas lieu, et vous avez 84% de votre salaire net, ou au minimum le SMIC, vous avez 100% de votre rémunération si vous êtes au SMIC ou en dessous.
Muriel Pénicaud, est-ce que vous demandez expressément aux entreprises de ne pas procéder à licenciement jusqu'à la fin de la période de confinement et de cette crise sanitaire?
Toute démarche de licenciement qui serait due à la crise, c'est vraiment pas la bonne démarche. Puisqu'on a les moyens, on se donne les moyens, et c'est un très gros coup pour la nation, mais nous l'assumons pleinement, de préserver l'emploi, de sauver l'emploi de tous les salariés, et aussi d'éviter les défaillances d'entreprises ou l'impossibilité qu'auraient les entreprises à repartir s'ils perdent leurs compétences. Donc on a mis en place un dispositif le plus protecteur d'Europe, il faut l'utiliser. Il est très très utilisé, je peux vous dire que là on est à plusieurs milliers de demandes par minute. On a changé tout le système d'information parce qu'il n'était pas prévu pour cette échelle-là et qu'on répond à toutes les demandes maintenant en temps réel. Les entreprises ont 30 jours pour faire leur déclaration. C'est pris à compte à titre rétroactif, donc il n'y a pas de raison. Surtout, ne licenciez pas, vous serez remboursé par l'État des salaires jusqu'à 4,5 fois du SMIC, mais ne licenciez pas.
C'est une demande que vous faites aux entreprises, mais vous n'avez pas l'intention de les contraindre, c'est-à-dire d'interdire ces licenciements.
Mais c'est pas l'outil efficace. L'outil efficace, c'est de permettre à l'entrepreneur de ne pas avoir à choisir entre le licenciement et le chômage partiel pour des raisons financières. Il y a dans les systèmes d'avant, on l'a vu en 2008-2009, il y a des PME qui étaient, ou des grandes entreprises qui étaient obligées de licencier parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les salaires quand ils n'ont plus du tout de rentrée d'argent. Donc là, comme on rembourse les salaires qui sont versés en chômage partiel, il n'y a plus de raison de le faire. Et donc vraiment, le mot d'ordre, c'est ne licenciez pas, mais je crois qu'il est entendu, je le redis, il est entendu. Il est entendu dans toutes les tailles d'entreprise. C'est important de savoir si vous êtes artisan, commerçant, vous avez un seul salarié, le chômage
partiel. Donc votre objectif, c'est qu'il n'y ait aucun licenciement pendant cette crise, c'est ça, Muriel Pénicaud? Votre objectif,
c'est qu'il n'y ait pas de licenciement lié à la crise.
Mais j'allais dire, pour le chômage partiel, cela peut augmenter autant que nécessaire.
Exactement. D'accord. On ne paye pas de plafond, on sauvera tous les emplois.
Alors, certains, pour le chômage partiel, certaines entreprises qui sont à flot, qui ont des finances saines, comme Chanel, annoncent qu'ils n'y auront pas recours par civisme. Est-ce que vous demandez à d'autres entreprises d'imiter cette entreprise-ci que je viens de citer pour ne pas gréver un peu plus le budget de l'État?
Oui, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ne recourraient pas au chômage partiel, bien qu'ils aient une partie de l'activité qui soit à l'arrêt.
Qui, par exemple, Noël Pénicaud?
Ils n'ont pas forcément envie de faire leur publicité, ils se font un acte citoyen, mais vous verrez bien, il y en a qui n'ont pas accès, qui ne le demandent pas. Par contre, il y en a qui le demandent, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon on n'arrivera pas à payer les salaires. Donc ça n'est pas incivique de recourir au chômage partiel. Au contraire, c'est fait pour sauver les emplois. Mmh. Mais quand une grande entreprise n'a pas trop de problèmes financiers dans la période, évidemment, on ne comprendrait pas qu'elle demande le chômage partiel alors qu'elle n'a pas de problème de trésorerie. Par ailleurs, elle distribue des dividendes. Et je pense que c'est du civisme d'entreprise que d'abord sauver l'emploi, permettre de réinvestir, continuer à l'activité. Et si on n'a pas besoin de l'argent de public, on ne le demande pas.
Est-ce que certaines entreprises, selon vous, manquent de civisme? Est-ce que votre ministère a refusé des demandes de chômage partiel en considérant qu'elles n'étaient pas justifiées par une baisse d'activité?
Ma préoccupation première, moi, c'est de sauver les emplois. Donc, pour l'instant, on accepte en 48 heures toutes les demandes qui n'ont pas eu de réponse. En 48 heures sont réputées acquises. Et on fera les contrôles a posteriori. Vous savez, dans une situation de crise, je pense que la grande majorité des gens, y compris les chefs d'entreprise, se comportent bien. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui profitent d'une situation, c'est une minorité. Eh bien, on contrôlera a posteriori et on les fera rembourser.
Quelles sanctions sont prévues, justement? Quelles sanctions sont prévues? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles sanctions dans le cadre de cette crise sanitaire pour, après la crise, eh bien, sanctionner ces entreprises qui pourraient avoir abusé du chômage partiel?
Il n'y a pas besoin de nouvelles sanctions, les taxes le prévoient. S'il y a eu des abus, eh bien, elles seront sanctionnées et elles rembourseront.
C'est quoi les sanctions, Muriel Pénicaud?
Mais vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est. Moi, mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas les sanctions. Les sanctions, ça viendra après et les contrôles, ça viendra a posteriori. Imaginez que je demande à mes équipes dans les directs, que je salue parce qu'elles font un travail formidable jour et nuit depuis 15 jours, ils sont sur le pont comme Pôle emploi, que je leur dis, vous regardez les 220 000 dossiers d'abord. Résultat, ça mettrait plusieurs semaines. Résultat, il y aurait des licenciements. Moi, mon but, c'est on accepte les dossiers, et après on va contrôler. D'accord. Mais j'en appelle évidemment au civisme, mais ceux qui auront fait un dossier alors qu'il n'était pas dû, eh bien ils rembourseront et ils seront sanctionnés. Mais je pense que ça sera une minorité, et on aura sauvé l'emploi. On n'a pas réussi à le faire aussi bien en 2009 que les Allemands. Là, on se donne tous les moyens. Et vous avez vu aux États-Unis, c'est terrible. En une semaine, ils ont eu 3 millions de licenciements. Et en plus, aux États-Unis, quand on est licencié, la plupart des salariés perdent leur couverture santé.
Vous parlez
donc, nous, on a un pays qui a la santé universelle et on a le chômage partiel universel, et c'est très bien.
Vous parliez de contrôle a posteriori. Certains chefs d'entreprise s'inquiètent en disant il y a une part de subjectivité dans l'appréciation de la baisse de l'activité et donc ils ont peur d'être requalifiés ou d'avoir justement des sanctions. Est-ce que vous avez donné des consignes à vos services?
Oui, bien sûr, des consignes. Et puis, il y a tous les deux jours, il y a un appel avec tous les services qui remontent les cas sur lesquels ils ont des questions. Mais ce qu'on a fait aussi, ce qui est nouveau, c'est que j'ai publié les instructions que j'ai données à mes services, qui sont donc sur le site du question-réponse du ministère du Travail, où il y a tout ce qu'il y a dans les ordonnances, tout ce qu'il y a sur le chômage partiel, tout ce qu'il y a dans le domaine travail et emploi. Et on a publié les instructions. Comme ça, les entreprises savent exactement ce qu'on regarde, avec quel regard on regarde. Le but, c'est d'avoir la même vision du sujet, et puis surtout, sauver les emplois, mais évidemment avec civisme.
Combien ça va coûter à l'UNEDIC? On dit donc 9 milliards d'ici la fin avril, hein, donc la caisse qui gère, je rappelle, les indemnités au chômage.
Alors, 10 deux tiers sont payés, deux tiers sont payés par l'État et un tiers par l'UNEDIC. Donc c'est principalement le budget de l'État, mais l'UNEDIC a aussi une garantie de sa dette couverte par l'État. Donc en fait, c'est l'État qui garantit l'ensemble. C'est un coût important. Aujourd'hui, les demandes qui concernent les 220 000 entreprises, les 2 200 000 salariés, si on s'arrêtait, je vais prendre un exemple théorique, pendant 6 mois, on serait déjà à 7 milliards de dépenses. Si on s'arrête 2 mois, eh bien, ça fait 3 fois moins. Donc, on verra à la fin combien ça coûte. Mais vous savez, ça coûterait encore plus cher. On a déjà prévu État plus UNEDIC compris 8,5 milliards. Je vais vous dire, si le coût social, si tous ces salariés allaient au chômage, vous imaginez 2 millions de salariés qui iraient au chômage, là, et le coût économique des entreprises qui n'arriveraient plus à repartir, il serait incommensurable. Et je crois qu'on peut être fier d'avoir ce système-là en France.
Vous le dites, Muriel Pénicaud, en fait, vous reprenez le « quoi qu'il en coûte » du président de la République.
Absolument.
« Quoi qu'il en coûte », vous irez au chômage partiel pour tous ceux qui le demandent.
Qui en ont besoin.
L'État a les moyens de renflouer l'UNEDIC à ce niveau-là. On sait qu'on est déjà très endetté.
Alors, encore une fois, deux tiers, c'est dans le budget de l'État. Ça fait partie des 45 milliards d'euros qu'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, donc que nous avons décidé de consacrer à la lutte contre le coronavirus, en plus des garanties pour les banques et pour les entreprises. Et donc c'est dans ces 45 milliards d'euros qu'il y a déjà prévu 8,5 milliards pour le chômage partiel, donc 5 milliards sur le budget de l'État et le reste sur le budget de l'UNEDIC, mais encore une fois garanti par l'État. Vous savez, on est dans une crise inédite. De toute façon, on a déjà fait un budget rectificatif, il y en a un autre. L'Europe autorise les dépassements. Il faut d'abord sauver les vies et puis protéger nos emplois, nos entreprises, nos compétences. Ça compte le plus, c'est le plus important. Le reste, on le traitera.
Muriel Pénicaud, vous allez promulguer un projet de loi qui incite les entreprises à suspendre le versement des dividendes. Pourquoi ne pas l'avoir interdit tout simplement, justement, puisque l'État fait un effort en faveur du chômage partiel, pourquoi ne pas avoir interdit le versement des dividendes, expressément ?
Alors, le ministre de l'Économie et des Finances s'est exprimé clairement, je crois, vendredi soir sur le sujet. D'abord, il faut que les entreprises aient le sens des responsabilités. Et donc, ce qui est prévu, qui va donc être mis en place, c'est que toutes les grandes entreprises qui font appel à l'aide de l'État pour assurer leur trésorerie. Donc, ils ont un problème de trésorerie dans le contexte, on peut le comprendre. Et donc, elles demandent une garantie de prêt de l'État ou elles demandent le report de charges sociales ou fiscales. Eh bien, celles-là n'auront pas le droit de verser de dividendes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent pour investir dans ses salariés et dans la reprise de l'entreprise et puis demander une aide de l'État et par ailleurs verser des dividendes aux actionnaires.
Donc, vous les incitez, donc, mais ça... vous n'avez pas l'intention d'interdire.
Si, si, c'est ce que je viens de dire. Elles n'auront pas le droit de verser de dividendes si elles font appel à la garantie de prêt de l'État ou elles demandent un report de charges sociales. Et celles qui l'auraient déjà fait, eh bien, elles devront rembourser. Et
celles qui ont encore recours au chômage partiel, justement.
Alors, c'est un peu différent parce que le chômage partiel, c'est pas tellement un sujet de trésorerie. Mm-hmm. Le chômage partiel, c'est pour protéger les salariés. D'accord. Donc, je ne voudrais pas que des entreprises utilisent le licenciement. Mm-hmm. Par contre, on leur demande d'être responsables et de faire preuve de modération dans le versement des dividendes. Donc, on va regarder ça, évidemment, au cas par cas, de façon très précise.
Alors, vous avez mis en œuvre une réforme des allocations chômage, des indemnités chômage. Hein, ça date depuis début novembre. Il y a eu un premier volet, une première salve début novembre. Une autre que vous deviez mettre en œuvre au 1er avril et que vous avez repoussé, Guillaume Roquette.
Oui, dans la première partie, il était prévu un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs, donc mise en place depuis novembre dernier. Cette partie-là, elle est toujours en pratique. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers pour bénéficier du chômage.
Alors, ce qu'on n'a pas changé, c'est ce qui était déjà en œuvre. Par contre, on fait deux choses. La première, c'est effectivement la réforme qui devait arriver le 1er avril et repoussée au 1er septembre. Et puis surtout, dans les ordonnances et les décrets que nous avons pris la semaine dernière, j'ai pris en compte toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui arriveraient au chômage et qui seraient en difficulté. Concrètement, c'est quoi ? Tous les demandeurs d'emploi indemnisés qui est arrivé en fin de droit, courant mars, et qui donc avaient l'inquiétude en disant « mais moi j'ai plus de droit du tout, j'ai plus le droit à l'assurance chômage en avril ». On repousse leurs droits d'autant, c'est-à-dire qu'ils auront autant en avril qu'en mars, et s'il faut, on le fera la même chose en mai. Donc ça, c'est pour les fins de droit. La deuxième chose, c'est que pour les saisonniers, les CDD, les intérimaires, on a pris des dispositions pour que leurs droits soient prolongés, là aussi, par rapport à la situation normale d'application des textes. Et puis pour les intermittents du spectacle, vous savez qu'il faut qu'ils aient 507 heures dans l'année pour avoir droit à l'assurance chômage. Eh bien, tous ceux qui arrivent à la date anniversaire, on prolonge les droits. Et tous ceux où ça sera plus tard, eh bien, on neutralise la période. C'est-à-dire qu'on fait comme si cette période ne comptait pas pour qu'ils ne soient en rien pénalisés. Donc, en clair, tous ceux qui peuvent être en difficulté, on a pris par décret ou par ordonnance la semaine dernière les mesures pour les protéger et Pôle emploi s'est mis en ordre de marche en quelques jours, encore une fois, chapeau,
disiez,
parce que ça va être opérationnel immédiatement dès le 1er avril.
Vous disiez récemment encore, cette réforme sur l'assurance chômage, c'est une bonne réforme, mais le contexte a changé. Est-ce que vous pouvez tout simplement imaginer abroger cette réforme ?
Alors, on ne va pas abroger beaucoup de choses qui étaient très demandées dans la réforme. Les droits de démissionner pour créer son entreprise, le fait qu'il y ait un filet de sécurité pour les indépendants.
Vous savez très bien que vous parlez de la dégressivité des allocations de chômage, Muriel Pénicaud, soyons clairs.
La dégressivité ne concerne que ceux qui, les 10% de salaire les plus élevés.
Vous le maintiendrez.
Et bien écoutez,
tout comme les trois dits rechargeables, je le rappelle, hein, qui ont été instaurés en 2014 et qui sont rabotés. Est-ce que ça, vous le maintenez, des mesures qui étaient ont été contestées par les syndicats à l'époque, qui ne sont pas en faveur des chômeurs ?
Aujourd'hui, la priorité, c'est de passer les semaines qui viennent et de protéger tous les plus vulnérables. Ouais. Nous ne savons pas aujourd'hui quel sera le contexte de la reprise économique. Nous faisons tout avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec le Premier ministre, pour mettre en place les conditions pour la reprise la plus forte et la plus rapide possible. Ça, c'est la meilleure protection, c'est qu'on réembauche demain, parce qu'on repart économiquement. Et donc, en fonction de ça, on évaluera la situation, je dirais, dans quelques mois. Mais pour l'instant, le sujet, c'est protéger les plus vulnérables, dans l'immédiat pour les semaines qui viennent, qu'ils ne se retrouvent pas avec des pertes de revenus ou un problème de pouvoir d'achat, et puis derrière, repartir très
vite. Mais
vous
ne suspendez pas définitivement cette réforme des allocations chômage, vous nous le dites ce matin.
Une mécanique qui est déjà en place depuis six mois, le sujet se pose différemment.
Oui, mais en toute transparence, dans quel contexte, parce que c'est le mot d'ordre du gouvernement. Vous n'abrogez pas cette réforme et vous ne suspendez pas ces premiers effets qui ont été mis en vigueur au mois de novembre. C'est clair, ça, c'est le cas.
On a suspendu la réforme qui arrivait, le morceau de la réforme qui arrivait au 1er avril et qui concernait tous ceux qui étaient en contrat court, donc ceux qui avaient les situations les plus précaires.
Les mesures qui sont en train de vigueur en novembre, vous les maintenez. Guillaume Roquette.
Oui, une autre réforme a été suspendue, celle des retraites, dont on se souvient des troubles sociaux qu'elle a engendrés. Est-ce que vous pensez sérieusement que vous pourrez remettre ce sujet sur la table une fois que la crise sanitaire sera passée ?
Vous savez, je crois que tout le gouvernement et beaucoup d'acteurs autour, on est concentré sur une chose. C'est sauver les vies, aider l'hôpital, aider les EHPAD, aider, pour moi, protéger les salariés qui vont travailler pour le bien de la nation. On est sur ce sujet et convaincre, par contre, tous les autres qu'il faut rester confinés. On est là-dessus 15 heures, 18 heures par jour, jour et nuit, week-end compris. Tout le reste, c'est après. Je crois que tout le temps à faire des extrapolations sur ce qu'on fera en septembre ou octobre, c'est du temps qu'on distrait à l'action immédiate. Et l'action immédiate, c'est vraiment sauver les vies, sauver l'emploi, protéger les salariés qui travaillent. Moi, je ne pense qu'à ça. Mes équipes ne travaillent que là-dessus, comme tout le gouvernement. Le reste, on aura le temps d'en débattre. Mais vous n'êtes pas
hostile, éventuellement, à ce que, on laisse de côté cette réforme si contestée?
Je pense que ce n'est pas le moment de réfléchir. Vous savez, quand il y a le feu dans la maison, vous ne vous demandez pas ce que vous ferez dimanche prochain.
Mais voilà, les Français se projettent aussi, et vous leur demandez aussi de se projeter, Muriel Pénicaud. Donc ils s'interrogent.
On se demande tous les uns les autres une solidarité, une discipline et un sang-froid en inventant des nouvelles formes de chaleur humaine différentes quand on est à distance, et c'est dur aussi. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Le reste, on aura le temps d'en débattre.
Alors justement, vous parlez de chaleur humaine. Eh bien, certains Français vont aujourd'hui au travail la peur au ventre parce que, ils sont réquisitionnés en quelque sorte pour être en première ligne, comme on dit, dans les supermarchés, les caissières notamment. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas deux injonctions paradoxales? Vous dites confinez-vous, mais en même temps allez travailler. Pourquoi ne pas établir une liste des métiers clairement claire sur quels sont les métiers où il y a un impératif de présence?
Tout d'abord, je voudrais dire que moi, je comprends la peur. Je comprends les peurs et les inquiétudes des éboueurs, des caissières, des livreurs, des auxiliaires de vie, de tous ceux qui travaillent pour que le pays continue à tourner. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut arrêter tout? Eh bien non, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être, il y a des entreprises qui fabriquent les masques, les matériels médicaux, il faut les transporter. Il faut que de l'agriculteur à l'agroalimentaire, au chauffeur-livreur, et donc du coup à la station-service qui est ouverte, et à l'électricité qui fonctionne, et au supermarché ou au petit commerce, et donc les caissières, et les personnes dans les entrepôts logistiques. En gros, il y a toute une chaîne de bout en bout qui est nécessaire pour que la vie puisse continuer à tourner, d'abord pour les hôpitaux et les EHPAD, mais aussi pour l'ensemble des Français qui sont confinés à la maison en très grande partie et qui ont besoin évidemment de se nourrir, d'avoir le téléphone, d'avoir Internet et tous les sujets de
premières nécessités.
Et donc, on a regardé, je reviens à votre histoire de secteur, on a regardé, puisque l'Italie a essayé, ils sont en train de corriger ça, parce qu'ils rajoutent des secteurs tous les jours. En fait, je crois qu'on ne réalise pas dans la vie normale à quel point, non seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, on est dépendant des uns des autres. Je reprends mon exemple à l'agroalimentaire. Il y a au moins une trentaine de métiers pour aller de la vache au pack de lait ou, comme on dit, de la fourche à la fourchette. Et donc, quand vous faites des secteurs, ce qu'ont essayé de faire par exemple les Italiens, ils sont aperçus tout de suite qu'ils avaient oublié par exemple les fabricants d'emballage. S'il n'y a pas de fabricant d'emballage, et donc s'il n'y a pas de fabricant de carton avant, eh bien vous n'aurez pas vos médicaments à l'hôpital et vous n'aurez pas votre pack de lait dans le supermarché. Donc en fait, c'est très compliqué parce que tout est dépendant.
Oui, oui, alors non, on en a discuté avec les partenaires sociaux. Attendez, mais non, ça, c'est ce que vous nous dites régulièrement.
Mais
une question très concrète, Guillaume Goroquette, sur l'automobile.
Par exemple, le groupe PSA a annoncé, Peugeot Citroën a annoncé qu'il allait reprendre son activité. C'est un besoin vital ou c'est une activité normale pour l'économie?
On en a beaucoup discuté avec les partenaires sociaux. Moi, j'ai une réunion téléphonique avec eux tous les deux jours. On en a beaucoup discuté. Certains pensent qu'il faut mettre des secteurs. D'autres pensent comme nous que c'est une vision théorique des choses et que dans la vie, c'est plus dépendant. Par contre, ce qu'on a convenu, et moi j'y crois beaucoup, c'est que dans chaque entreprise, il faut réunir son comité social économique. D'ailleurs, les partenaires sociaux y ont appelé. Je l'ai demandé explicitement. S'il y a une entreprise qui l'a pas fait, il faut le faire lundi. Il faut réunir pour discuter ce qui peut être différé, ce qui ne peut pas l'être. Je vais prendre un exemple, le secteur de automobile en général. Il y a des véhicules qui peuvent attendre pour être fabriqués. Il faut savoir que quand Renault, Peugeot ou Airbus s'arrêtent, c'est des milliers d'entreprises derrière, de PME qui s'arrêtent, qui elles-mêmes font arrêter d'autres gens. Donc il faut se rendre compte que c'est des écosystèmes très concernés. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin que les chauffeurs livreurs, les ambulanciers, ils puissent avoir des véhicules en état de marche, réparer s'il le faut, en acheter s'il le faut.
Mais donc, on est d'accord que ce sont
c'est
les
pas tout ou rien.
Oui,
et donc c'est dans chaque entreprise qu'il faut évaluer ce qui peut être différé, ce qui on a l'impression que ça peut être différé, mais ça met en catastrophe l'amont et l'aval.
L'automobile, c'est un secteur qui est indispensable aujourd'hui. Il y a des ouvriers encore une fois qui vont à la ligne aujourd'hui travailler à la ligne et qui sont angoissés. Ils se disent est-ce que vraiment
aujourd'hui,
c'est nécessaire que je fabrique des voitures?
Est arrêté à 90% dans le pays. Donc l'automobile, aujourd'hui, est quasiment arrêté dans le pays. Mais j'insiste sur le fait que ça ne se fait pas par décret. Ça se fait dans les branches, dans les entreprises. On se dit qu'est-ce qu'on peut différer et qu'est-ce qu'il faut continuer. Mais alors, par contre, là où je serais intraitable, oui, et la seule chose que l'État a fait, c'est de fermer les bars, restaurants, les sujets où là, vraiment, le métier même, c'est de faire rencontrer des gens de façon très confinée et serrée. Donc là, on n'avait pas le choix. En revanche, on ne travaille pas à n'importe quelle condition. Et là où je serais intransigeante, c'est on ne transigera pas sur la santé des travailleurs.
Donc,
Peugeot,
par exemple, vous dites Peugeot a raison de relancer ses usines. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Je dis que c'est une discussion que Peugeot doit avoir avec son comité social et économique, en discuter avec les syndicats et les salariés, voir quelle est la part qui repart, quelle est la part qui ne repart pas. Je ne crois pas du tout que l'automobile va rouvrir complètement. Ça n'aurait pas de, je ne comprends pas pourquoi ça aurait lieu d'ailleurs. En revanche, il y a des conditions à ça. Et la protection des salariés n'est pas négociable.
Vous faites confiance à Peugeot
salariés,
pour le faire. Vous faites confiance à Peugeot, par exemple.
Je fais confiance au dialogue social. Je fais confiance aux entreprises, mais aussi au dialogue social. Ça doit être discuté dans le dialogue social. Et puis, pour aider les entreprises et pour être sûr que ça soit bien carré sur la protection des salariés et que les salariés puissent ne pas avoir la boule au ventre en allant travailler, on a mis en place depuis 8 jours une équipe projet qui ne fait que ça jour et nuit, qui travaille secteur par secteur pour dire c'est quoi les bonnes pratiques dans tel métier. On a sorti vendredi
plusieurs guides, en effet,
chauffeurs livreurs.
On va y revenir, mais une question parce qu'on arrive à la pause. On arrive à la pause, Muriel Pénicaud. On a vu, il y a en effet tous ces vadémécom en quelque sorte que vous publiez sur le site de votre ministère. Mais est-ce que vous demandez à toutes les entreprises, par exemple PSA, de verser une prime de 1000 euros qui a déjà été annoncée dans la grande distribution pour tous ceux qui sont sur le terrain actuellement? Est-ce que vous le demandez solennellement ce matin?
Alors, je ne peux pas le demander parce qu'il y a des entreprises, notamment dans les PME, de la sous-traitance, qui n'ont pas les moyens financiers. Peut-être qu'ils le feront plus tard quand ça sera reparti. Mais par contre, ce que on a mis aussi là dans les textes de la semaine dernière, c'est la possibilité. Enfin, pardon, c'est dans les textes de cette semaine que une entreprise verse une prime à ses salariés, notamment ceux salariés qui sont au front en travail physique en présence, parce que c'est eux qu'il faut soutenir au maximum
dans leurs
efforts.
Mais aux grandes entreprises, vous dites les petites entreprises, on peut comprendre, mais les grandes entreprises, est-ce que vous leur demandez, comme PSA, très concrètement, de verser cette prime?
Je pense que toutes celles qui peuvent le faire, oui, on leur demande de le faire. Mais il y en a quelques-unes qui sont en grave difficulté financière, qui ne peuvent pas forcément le faire. Il faudra qu'elles n'oublient pas après que tous ceux qui sont allés travailler pour le bien des Français, pour la vie quotidienne des Français, il faudra les récompenser après. Il faudra s'en rappeler en termes de salaire et de rémunération. Et ceux qui peuvent le faire, ils saluent l'effort tout de suite avec une prime où il n'y aura pas de charge sociale, pas d'impôt, ni pour les salariés, ni pour l'entreprise.
On vous a entendu. On vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce grand jury, notamment avec un débat face au patron de Force Ouvrière, Yves Verrier. À tout de suite.
grand jury. Invité aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Merci de nous être fidèles en direct donc sur RTL et sur RTL.fr avec Muriel Pénicaud. Dans quelques instants, la ministre débattra avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Mais d'abord, Muriel Pénicaud, une question de Guillaume Roquette sur l'appel à une grève par la CGT.
Oui, c'est la Fédération des services publics de la CGT qui a déposé un préavis de grève pour la totalité du mois d'avril pour protester contre la loi d'urgence sanitaire. Au moment où vous appelez les salariés à se mobiliser, que pensez-vous de cette attitude ?
Eh bien, je vais vous dire, je ne comprends pas. Je comprends parfaitement le positionnement des syndicats, que je partage totalement, sur nous devons assurer pleinement la protection de ceux qui sont au front, la fameuse deuxième ligne qui permet à la France de tourner, aux hôpitaux de tourner. Et ça, on a tous le même combat, c'est protéger les salariés. Moi, c'est avec protéger l'emploi, c'est ma priorité.
Vous demandez un moratoire sur la grève ?
En revanche, menacer de ne pas assurer des services publics de première nécessité pour les gens, c'est rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre, dans un contexte comme ça, comment l'unité nationale ne prévaut pas.
Vous en avez parlé avec Philippe Martinez, vous lui lancez un appel ce matin ?
Oui, je crois qu'on se parle tous les deux jours, comme tous les partenaires sociaux. Je pense que d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup de militants CGT qui pensent de même. Bien sûr, ils exigent et ils ont raison de devoir être protégés s'ils doivent travailler. Mmh. Et ça, on est d'accord. Mais de là à bloquer les services publics qui sont de première nécessité pour les Français, dans un contexte comme on l'est...
Mais il vous a entendu, Philippe Martinez, ou pas ?
Alors, vous savez, c'est surtout, je pense que lui-même vous le dirait, c'est pas simplement la parole du secrétaire général, c'est sur le terrain que ça se joue, et on verra ce qui se passe.
Mais est-ce que vous pouvez demander un moratoire, voilà, dire écoutez,
ou fixer une liste des services publics qui sont vitaux et donc dans lesquels le droit de grève est suspendu ?
Non, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut discuter partout, là où il y a des inquiétudes. Et les inquiétudes sont légitimes, les inquiétudes sont compréhensibles, moi je les entends complètement, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour assurer la protection des agents publics qui ont besoin de travailler pour l'intérêt de tous. C'est ça la réponse. La réponse, c'est pas grève ou pas grève. La grève, ça résout rien, ça résout pas le problème des Français qui ont besoin des services de première nécessité, des services publics, ça résout pas le problème des ouvriers, des agents publics, des salariés, mais là, en l'occurrence, on parle des agents publics qui eux-mêmes demandent des protections. Donc je crois qu'il faut travailler sur les protections pour pouvoir assurer son rôle d'agent public en toute sécurité.
Justement, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés que le syndicat CGT a déposé ce préavis. C'est un peu le thème du droit de retrait. Est-ce que vous avez un chiffre ? Combien de salariés français ont fait usage de leur droit de retrait pour des raisons de sécurité, en tout cas pressenties comme telles par eux, depuis le début de la crise ?
Non, c'est pas un chiffre qu'on sait recenser comme ça en temps réel, donc j'ai pas de chiffre. Moi, ce que j'entends, c'est que le droit de retrait, c'est souvent utilisé comme un appel à l'aide. Je l'entends comme un appel à l'aide. Sur le thème, je suis pas confiant, je vais à la boule au ventre au travail, et là, j'exprime mon inquiétude. Voilà. Mais c'est un droit de retrait dans le droit qui est prévu individuel. Or, notre réponse, elle doit être collective. La réponse collective, c'est dans chaque entreprise, dans chaque service public, on se met autour de la table, virtuelle bien sûr, on discute avec les syndicats, avec les salariés, et on met en place les protections. Et c'est
mais
pour ça que nous, on fait une action secteur par
exemple,
par secteur.
Non, mais s'il n'y a pas de protection, regardez, les syndicats CFDT, FO, SFTC appellent les chauffeurs à agir dès demain, donc dès lundi, en cas de manquement aux mesures de protection sanitaire contre le coronavirus, et donc d'appliquer ce droit de retrait. Qu'est-ce que vous leur dites,
les chauffeurs routiers ?
Oui, les chauffeurs routiers. Alors c'est un bon exemple, je vais prendre cet exemple. Laissez-moi le temps d'expliquer. Les chauffeurs routiers, et je comprends leur inquiétude, ils ont deux sujets. Ils ont un premier sujet qui est-ce que je vais trouver l'aire d'autoroute avec des sanitaires nettoyés, où je vais pouvoir faire les gestes barrières, me laver les mains ? Est-ce que je vais trouver la restauration sécurisée ? Donc ils ont un premier sujet de ce type-là, et Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari ont travaillé là-dessus avec les professionnels du secteur, et d'ailleurs Bison Futé met à disposition sur son site la carte de toutes les aires de service et de repos qui sont disponibles sur le réseau national routier et la carte des centres techniques qui sont ouverts parce qu'il faut aussi pouvoir réparer si on a une panne. Ça, c'est un premier élément de sécurisation qui est important. Mais on voit bien, là encore, l'interdépendance des métiers. Ça veut dire qu'il faut que les services de propreté fonctionnent aussi. Parce que moi, je comprends le chauffeur routier. S'il n'a pas d'arrêt où il peut se laver les mains et en toute sécurité, je comprends qu'il ne veuille pas et qu'il ne puisse pas aller travailler. Et puis après, il y a un deuxième sujet. C'est que, quand je dis se laver les mains, c'est aussi les douches de service. Enfin, c'est tout ce qui est requis. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que dans le camion, on est combien, comment on fait? Et bien justement, on a travaillé avec les professionnels et vendredi, c'est un des trois premiers guides qu'on a sortis, qui devient du coup la norme. C'est pour les chauffeurs routiers, quelles sont les obligations des entreprises pour permettre que le 1 mètre de distance, que le lavage de mains, que tous les gestes barrières puissent être respectés. Donc il est public depuis vendredi. Toutes les entreprises de transport doivent maintenant le respecter. Et là, je peux vous dire que il y a l'imprimatur du ministère du Travail et du ministère de la Santé. On ne le donne pas légèrement. Si c'est le cas, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut être chauffeur routier et travailler en toute sécurité. Donc les entreprises, maintenant, doivent le faire. On voit bien que la solution, elle est collective. Et il faut, évidemment, en plus des mesures habituelles, rajouter ces mesures spécifiques liées au
COVID-19. Et quand la CGT demande au gouvernement d'imposer à la grande distribution de n'ouvrir que les rayons de produits de première nécessité, de restreindre les amplitudes d'ouverture et de fermer le dimanche. Est-ce que vous pouvez accéder à cette demande pour protéger les salariés?
Je pense que, moi, mon appel aux entreprises, je l'ai dit, c'est d'abord de ne pas licencier. C'est d'apporter les services dont les Français ont besoin et c'est de protéger les salariés. C'est pas l'un ou l'autre ou l'autre. Il faut faire les trois. Je vais donner un exemple. En ce moment, l'alimentaire, tout le monde est d'accord, c'est la première nécessité. Mais je pense qu'avec la grande majeure partie des Français qui sont confinés chez eux, avec l'école à la maison, avec le télétravail, avec le fait qu'il faut quand même se distraire entre quatre murs, c'est pas facile, il faut s'échapper, et puis on a besoin d'informations. Ben je crois qu'il faut être sûr que les téléphones soient là et qu'Internet soit là. C'est devenu, j'ose pas dire des services publics, mais presque dans une période de crise. Et donc, dans les grandes surfaces ou dans les petits commerces, on vend l'alimentaire, on vend aussi d'autres choses dont ont besoin les Français. Le sujet, c'est pas qu'est-ce qu'on vend ou qu'on vend pas, c'est d'abord être sûr que tous les salariés soient protégés.
Oui, mais alors, ça n'a pas été le cas à Carrefour. Vous avez bien vu qu'il y a eu le décès de cet délégué syndical qui a ému, bien évidemment, dans ce milieu-ci.
Ça émeut tout le monde. À chaque fois qu'il y a un décès, je pense que tout le monde se sent touché, solidaire et quelque part inquiet en disant ça peut arriver à quelqu'un que je connais ou à moi-même. Ça, je le comprends. Ce que je veux dire, c'est que pour la grande distribution, c'est un bon exemple aussi, on a travaillé sur les mesures de protection. Et là aussi, il y a eu un guide qui est sorti il y a quelques jours, qui a été fait d'ailleurs par les professions et que nous avons approuvé parce qu'il correspond à des normes santé, qui dit quoi? Par exemple, pour les hôtesses de caisse. Et on a vendredi fait un guide sur les hôtesses ou les hôtes de caisse, il y a quelques hommes, sur le travail en caisse. Comment on se protège? On est proche du client quand on est en caisse. Donc il faut une protection, bien sûr, sur les projections. Et donc, on a évalué les différentes formules et ce qui est le plus efficace, c'est la barrière en plexiglas. C'est un écran en plexiglas qu'en plus on peut nettoyer régulièrement et on doit nettoyer régulièrement. Bien ça, évidemment, toutes les caisses doivent avoir ça. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut qu'effectivement il y ait la discussion dans l'entreprise.
Mais est-ce que vous allez envoyer des inspecteurs, même si c'est difficile en ce moment, sur le terrain, dans ces supermarchés pour vérifier
les inspecteurs du travail, et je les salue, font leur travail pendant la crise.
Est-ce qu'ils ont relevé justement des imperfections et des infractions là-dessus?
Alors, on fait deux choses. D'abord, moi je crois beaucoup au dialogue social et il est plus que jamais indispensable dans le cadre de cette crise. Pour les grandes entreprises, dans les réunions téléphoniques, nous avons tous les deux jours avec les partenaires sociaux, je leur ai demandé de nous remonter les cas parce qu'ils ont les remontées du terrain aussi. J'ai mes propres remontées du terrain par mes services, mais les organisations syndicales et patronales aussi, on signale, ont des remontées. Donc, à chaque fois qu'il y a une grande entreprise dont on a l'impression que c'est pas le cas, par exemple, moi, la semaine dernière, j'ai appelé tout de suite le directeur général d'Amazon en lui disant que manifestement, les conditions n'étaient pas réunies.
Et vous avez eu d'autres remontées depuis?
Oui, j'ai des remontées. J'en ai eu hier, j'en ai eu ce matin. Ils ont changé une partie, mais ça suffit pas. C'est pas encore au bout. Et donc, on ne lâche pas jusqu'à ce que ça soit les bonnes mesures pour protéger les salariés. Et donc, je crois qu'il faut faire aussi confiance au dialogue social. Il faut aussi que ça remonte par le dialogue social. Il faut que l'inspection du travail joue son rôle. Il faut que les employeurs Et le sens que, je leur rappelle, la loi prévoit qu'il y a une obligation de mettre en place la protection. Ils ne peuvent pas être responsables que quelqu'un soit malade à la fin, mais ils sont responsables des moyens qu'ils ont mis. S'ils ne respectent pas les guides, s'ils ne respectent pas, eh bien à ce moment-là, ils sont en faute.
Autre point dans l'organisation sociale, le gouvernement a fait passer une ordonnance qui permet de porter à 60 heures par semaine la durée quotidienne, la durée maximale pardon, du travail hebdomadaire. Il doit y avoir une liste de secteurs d'activité concernés. Quand connaîtra-t-on cette liste pour savoir quelles sont les entreprises et donc les salariés touchés ?
Alors, ce n'est pas vraiment une liste. C'est quelque chose qu'on va faire vraiment de façon parcimonieuse pour des secteurs où c'est critique. C'est quoi l'esprit ? Il y a quelques entreprises, la plus grande partie des entreprises sont en sous-activité, évidemment, voire à l'arrêt, pour une partie d'entre elles. Mais il y en a quelques-unes qui sont en suractivité, puisqu'on va avoir besoin d'elles là, dans les jours, dans les semaines qui viennent, de façon critique. La fabrication des masques, par exemple, on avait 4 entreprises qui en fabriquaient, il y en a 24 qui viennent d'être homologués pour le faire. Et je salue d'ailleurs les industriels du textile, du papier, qui reconvertissent leur activité en quelques jours pour pouvoir fabriquer des masques dont on a tant besoin. Eh bien, c'est quand on fabrique des masques, ou bien si on a une pénurie alimentaire sur tel ou tel type de produit très important, il faut à un moment donné qu'on puisse, pendant quelques jours, quelques semaines, travailler plus.
Mais
travailler
plus, ça veut dire évidemment...
mais on le fera décret secteur, bien sûr, c'est par décret, mais on le fait secteur par secteur. Peut-être qu'un secteur, on va l'autoriser à le faire 15 jours, donc une semaine, deux, trois semaines. Et que pour les activités où il y a une surcroît d'activité très fort et où il faut des compétences, et donc pendant quelques jours ou quelques semaines, et oui, on demandera à des salariés de travailler plus longtemps, évidemment avec paiement des heures supplémentaires. Comme vous savez, c'est des heures majorées, donc on gagne plus en heures supplémentaires dans ces cas-là qu'en temps normal. Ce sera des décrets au cas par cas pour une durée très courte. On ne change pas le code de travail en général. Hein. Après, c'est terminé. On revient au code du travail habituel. Mais juste pendant cette période-là, je crois que les Français ne comprendraient pas.
Les heures sup seront défiscalisées, Muriel Pénicaud, et on va accueillir Yves Verrier. Oui.
Les heures sup sont déjà majorées. Il y a déjà des tas de dispositions sur les heures supplémentaires.
Est-ce qu'elles seront défiscalisées?
Je pense il y a déjà des dispositions, c'est pas tellement le sujet. Le sujet qui est demandé aujourd'hui, c'est les Français ne comprendraient pas si les masques n'arrivent pas, parce que juste les entreprises n'ont pas le droit de travailler assez pour le faire.
Eh bien, on accueille
majoré pour le salarié.
Tout à fait. On accueille Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, donc pour cet échange entre Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et donc vous, Yves Verrier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc bien
évidemment, Yves Verrier,
vous aussi à distance, mais vous allez dialoguer avec la ministre, et notamment donc sur cet allongement de la durée du travail hebdomadaire, vous l'avez qualifié, Yves Verrier, d'hérésie.
Oui, absolument, parce que premièrement, je rappelle, j'espère qu'il y aura un avant et un après à tout point de vue, mais à commencer par la question du dialogue social, parce que le jeudi 19 mars, nous étions justement dans une téléconférence avec Madame la Ministre du Travail, et les 5 confédérations ont fait part de leur opposition à ce projet de dérogation au temps de travail, et les 3 organisations patronales ont elles-mêmes dit qu'elles n'étaient pas demandeurs. C'est ce qui a, je pense, conduit à ce que le gouvernement freine là-dessus. On a soumis donc maintenant l'histoire des congés, la semaine de 6 jours de congés à un accord d'entreprise ou à un accord de branche. Par ailleurs, j'entends maintenant qu'on va faire en sorte de réduire à minima la possibilité d'utiliser ces dérogations. Moi, en tout cas, j'ai appelé les organisations patronales à ne pas utiliser ces dérogations. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises, justement, et je voudrais le dire quand même, tous les salariés des secteurs qui sont indispensables à la population aujourd'hui ne se sont pas arrêtés, ils se sont mobilisés dès le départ, sans protection. On parle beaucoup des caissières, c'est vrai par exemple des agents des entreprises de nettoyage qui nettoient par exemple les hôpitaux.
La ministre va vous répondre, parce que vous appelez donc à ce que les entreprises n'appliquent pas ces dérogations. Comment vous réagissez, Muriel Pénicaud ?
Oui, mais justement, attendez, je voudrais juste préciser une chose. Partout où le dialogue social a lieu, correctement, on a fait l'inverse. On a plutôt réduit les plages d'ouverture, on a plutôt fermé le dimanche. Il y a eu une petite polémique cet an dernier sur la grande distribution. On a échelonné les prises d'activité justement pour que ces secteurs puissent fonctionner en respectant les gestes barrières, donc en sécurisant les salariés. Et au besoin, eh bien, s'il le faut, recrutons. Il y a beaucoup de salariés, si on crée des emplois sécurisés, qui seront volontaires.
Alors qu'est-ce que vous répondez, Muriel Pénicaud, à cela ? Pas de dérogation, il y a d'embauche.
Je réponds à Yves Verrier, que je salue, qu'on s'en est parlé, tous ensemble plusieurs fois, que moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que dans la grande majeure partie des cas, c'est exactement ce que dit Verrier, le sujet n'est pas de travailler plus, on travaille moins, et d'ailleurs, je dirais même, il faut travailler autrement et moins, on peut pas attendre la même productivité, la même rentabilité que d'habitude, c'est pas raisonnable, dans un contexte où il y a une partie des salariés qui est en arrêt maladie ou qui garde ses enfants, donc là aussi, il faut quand même raison garder. Donc dans la grande majorité partie des cas, le sujet n'est pas du tout le temps de travail, au sens travailler plus. Il y a quelques cas, et je m'en suis expliqué, et d'ailleurs, j'écoute ce que disent les partenaires sociaux. La preuve, c'est ce qu'on a. On a modifié l'ordonnance sur les congés payés.
Oui, mais vous ne répondez pas,
monsieur
Verrier.
Il vous dit
pourquoi ne pas prendre des intérimaires? Pourquoi ne pas avoir des CDD là où la durée du travail, au lieu d'augmenter la durée du travail hebdomadaire?
Eh bien, partout où on peut le faire, il faut le faire. Mais il y a des sujets où il y a des compétences particulières. Je vais dire, par exemple, les respirateurs. On est en train de fabriquer des respirateurs. C'est un peu technique. C'est pas sûr qu'un intérimaire qui arrive la demi-journée soit capable de le faire. On ne fera pas de compromis sur la qualité du respirateur. Et donc, si pendant une semaine ou deux, on doit travailler plus dans ces entreprises qui vont faire des biens essentiels pour la nation pendant, encore une fois, une durée très courte, et ça va être peu de décrets dans peu de secteurs et de façon très ciblée. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde le comprend. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de salariés le comprendront et accepteront d'aller travailler en étant d'ailleurs plus rémunérés.
Rapidement, avant un autre sujet, Yves Verrier.
Et ça sera parcimonieux.
Ben, vous savez, dans ces cas très particuliers, il n'y a pas besoin d'une loi ni d'une ordonnance.
Ah, si.
Les salariés se mobilisent dans ces cas-là, vous savez, et ça se fait spontanément.
Le droit interdit qu'ils travaillent plus.
Vous savez très bien que bien des salariés ne vont pas autoriser des choses illégales. Non, mais il y a des dispositions qui existent dans le Code du travail qui permettent d'aller au-delà des 48 heures, mais sous des conditions qui sont celles de s'assurer à la fois de la consultation des représentants du personnel et deux, qu'on le fait en sécurisant la situation. Ça existe déjà, c'est inutile.
Mais une question à Yves Verrier de Guillaume
Roquet. Si ce n'est pas utilisé, ce ne sera pas utilisé. Mais moi, je ne peux pas me perdre. Yves Verrier, je crois que je connais votre sens du service public qui est très fort. Imaginez qu'on n'arrive pas à produire assez des choses qui sont essentielles pour les hôpitaux ou l'alimentaire dans les semaines qui viennent. Je crois qu'il faut se garder la possibilité de le faire. Ça va être dans peu de cas, pour
Madame
une durée
la
très
ministre,
limitée.
Les salariés de tous ces secteurs-là sont mobilisés à fond. Et
je suis d'accord
avec
ça.
Pour les personnels santé comme pour ceux-là.
On dit la même chose, mais il faut leur permettre de travailler plus. Vous savez, dans les hôpitaux, ils comptent par leurs heures en ce moment.
Guillaume Roquet.
Il faudra s'en souvenir.
Yves Verrier, toujours dans les règles mises en place pour gérer cette crise, il y a une modification de la façon dont sont organisés les congés payés. Est-ce que vous seriez prêt à une diminution des congés d'été, à un effort spécifique pour faire repartir l'économie une fois que le confinement sera terminé?
Mais premièrement, on est loin de savoir quelles seront les conditions d'une reprise et à quel moment on sera dans ces conditions de reprise. Ensuite, ça va dépendre de beaucoup de secteurs d'activité. Ça va être différent d'un secteur d'activité à un autre. Ça va être différent d'une entreprise à une autre, même dans le secteur d'activité, parce que on ne sait pas exactement ce dont on aura besoin. Est-ce que on aura des gens malades, pas malades?
Ça doit se discuter par secteur.
Mais oui, tout ça, ça se discute. Le dialogue social doit l'emporter. Quand le dialogue social a lieu, les choses se passent très bien.
Amurel Pénicaud, qu'est-ce que vous répondez à cela? Les syndicats vous disent, et Yves Verrier en particulier, vous ne les avez pas suffisamment consultés.
Alors, je partage avec Yves Verrier, je le répète tous les jours, que le dialogue social est essentiel, dans l'entreprise d'abord. Pour les questions de protection des salariés, c'est quand même là qu'il faut le plus, avec les guides qu'on fait, avec les orientations qu'on donne, mais il faut que c'est là qu'il faut les mettre en place, au niveau des branches, qui ont un gros travail là-dessus aussi, et qui contribuent à fixer tous ces repères, et puis au niveau professionnel et interprofessionnel national. C'est l'objet de tous les débats qu'on a. Je crois que pour la reprise, on n'en est pas encore là, mais il faut la préparer en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que dans les ordonnances qu'on prendra dans quelques jours, le dernier train d'ordonnance, on va permettre la possibilité de financer sur les fonds du ministère du Travail, comme le chômage partiel, aussi la formation prise à 100%.
Mais est-ce que vous allez les associer davantage,
cette
par exemple, sur la date jusqu'au 31 décembre? Voilà ce que prévoient les ordonnances, c'est jusqu'au 31 décembre l'allongement de la durée du travail. Est-ce que vous irez jusqu'au 31 décembre ou est-ce que vous allez en discuter avec les syndicats?
C'est pas... le sujet est lié strictement à la crise sanitaire. Ces mesures exceptionnelles du Code du travail, elles ne sont pas pérennes. Elles sont transitoires, elles sont liées à la crise sanitaire. On a pris une marge de sécurité juridique, puisqu'on ne peut pas rechanger les ordonnances qui ont force de loi tous les jours. J'espère bien qu'on n'aura absolument pas besoin du 31 décembre. Mais s'il y a un regain dans le pire des scénarios de l'épidémie à l'automne, on peut avoir une difficulté. Je pense qu'en fait, ça va durer, c'est vraiment pour les semaines qui viennent et dans des secteurs très précis.
Alors, Yves Verrier, qu'est-ce
mais
que vous,
il faut
Yves
toujours vous prévoir, répond, c'est Yves le, vous savez, répond. Le gouvernement, on a une responsabilité de prévoir le meilleur, de préparer le meilleur et de prévoir le pire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le 31 décembre.
Alors, Yves Verrier, personnellement, je pense qu'on le par ces explications de Muriel Pénicaud sur cette date butoir du 31 décembre.
Mais encore une fois, vous l'avez compris, nous étions opposés et nous restons opposés à ces ordonnances qui ont vocation à déroger sur le temps de travail. Donc je pense que le message a été largement compris et en tout cas exprimé et j'espère qu'il sera entendu. Encore une fois, nous pensons qu'elles ne sont pas utiles et moi j'appelle encore une fois les employeurs à privilégier la négociation collective. Voilà, donc là-dessus, j'en demanderai pas. Moi, je voudrais quand même insister sur une chose. Vous savez, je représente une confédération syndicale, mais une confédération syndicale, ce sont des centaines de milliers d'adhérents. Et ces adhérents, ils sont, comme tous les salariés, d'une part mobilisés dans les secteurs qui travaillent, y compris physiquement, du secteur de la santé, bien évidemment, en particulier. Je parlais des entreprises de nettoyage, de sécurité. On a beaucoup parlé de toute la chaîne de l'alimentation jusqu'aux caissières et aux caissiers, les personnels à domicile. Et puis, nous sommes très sollicités par ces mêmes salariés parce qu'ils ont peur quand ils doivent aller au travail et ils y vont avec. On a réussi à faire bouger un certain nombre de choses, hein, les plexiglas par exemple devant les caisses.
Voilà, on va laisser répondre Muriel Pénicaud.
Là-dessus, on est totalement d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je comprends complètement les salariés qui ont peur, qui ont la boule au ventre. Et notre devoir collectif, c'est de mettre en place toutes les mesures de protection. Les entreprises doivent le faire. J'ai déjà dit qu'on avait sorti les guides qui deviennent normatifs sur les chauffeurs-livreurs, les travailleurs en caisse, les travailleurs en boulangerie pour protéger les salariés. Dans les jours qui viennent, vont arriver les guides sur le secteur agricole, sur la surveillance et la sécurité, sur les activités de propreté qui sont extrêmement importants aussi, sur les services funéraires, sur lequel il y a des véritables inquiétudes, sur la distribution de carburant et la réparation des automobiles, sur la maintenance avec tous les risques sanitaires, type plombier, ventilation, sur les cuisiniers, sur l'aide à domicile, sur les services à la personne, sur les ambulanciers, sur la logistique, les activités de banque d'assurance et le bâtiment. Donc oui, travaillons, continuons, on accélère toutes ces protections. Il ne faut pas qu'il y ait un seul salarié qui ne se sente pas protégé. Chacun qui doit aller travailler doit être protégé.
Merci Verrier d'être intervenu dans ce grand jury pour une édition spéciale. Tout de suite, c'est l'heure de Questions Nettes.
Le grand jury, Questions Nettes.
Alors, beaucoup de questions, Madame la Ministre, des internautes qui nous écoutent. Et je vous relais d'abord celui-ci d'Alexandra Moret, qui vous dit, Madame la Ministre, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Imaginez-vous travailler 60 heures par semaine à l'usine. Je vous défie de vous mettre en situation concrète, de mettre la protection totale pour éviter une contamination. Mettez cette protection totale, dit Alexandra Moret, et montrez-nous l'exemple. Voilà ce que vous dit cette salariée. Est-ce que vous allez vous déplacer dans une usine pour leur montrer l'exemple?
Je comprends ce qu'elle a dit. Je connais bien le monde industriel. J'ai travaillé 20 ans dans le secteur industriel. Et quand je suis devenue DRH, mon exigence pour prendre le poste, ça a été d'aller faire un stage ouvrier en 3-8. Parce que il faut comprendre la situation de travail. Et je comprends ce que dit cette auditrice. C'est pas facile. Et ça dépend en plus des métiers. Il y a des secteurs plus ou moins difficile. Mais encore une fois, le 60 heures va concerner très peu de gens, pour très peu de temps, pour des choses qui sont innécessaires. Alors, et je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir accepter ces.
Mais vous pourriez aller dans une usine concrètement. Est-ce que vous pourriez aller dans une usine? Alors, même si c'est compliqué, il faut garder de la distanciation physique, on le voit aujourd'hui puisque vous n'êtes pas dans ce studio, est-ce que vous pourriez le faire?
L'instruction pour les ministres, comme pour les autres Français, c'est d'être pas de déplacement. Sinon, je le ferai volontiers. Mais
alors, autre question.
Là, c'est compliqué.
Autre question d'un
internaute. Mais je l'ai fait avant et je le ferai après.
Francis Bonin qui vous dit « Bonjour Madame la Ministre, mon entreprise fabrique des sachets papier pour les vendre ensuite à des grainetiers. Et mon patron nous oblige à venir travailler pendant le confinement. Pour lui, son entreprise n'est pas indispensable. Que lui répondez-vous ?»
D'abord, je voudrais savoir si le chef d'entreprise a réuni, comme il doit le faire, le comité social et économique pour discuter justement ce qu'on peut différer, ce qu'on ne peut pas différer et à quelles conditions on travaille. Je rappelle, on ne travaille pas à n'importe quelle condition. Il faut que les salariés soient protégés. Est-ce que le CSE a été réuni? Est-ce que les salariés sont protégés? Ça, c'est la question clé.
Donc, s'ils sont protégés, ils peuvent travailler. Mais alors, vous avez une autre question de David Dupont qui vous dit « En cas de contamination d'un de mes salariés au Covid-19, peut-il me poursuivre pour défaut de protection? Et si oui, pourrais-je retourner la plainte contre le gouvernement ?» Voilà l'inquiétude aussi qui pèse sur les chefs d'entreprise aujourd'hui.
Alors d'abord, je voudrais dire à chef d'entreprise que j'espère que sa principale inquiétude, c'est quand même le salarié qui est décédé, les autres salariés qui doivent être choqués. Voilà, enfin, avant de faire du juridisme, il faut faire de l'humain. Mais sur le plan juridique, le Code du travail est très clair. Il dit qu'une entreprise ne peut pas être tenue responsable de quelqu'un qui est malade. En plus, le coronavirus, on peut l'attraper malheureusement à beaucoup d'endroits. Mais par contre, il est responsable d'avoir mis les moyens de protection en place. S'il n'a pas mis en place les situations où les gestes barrières sont respectés, c'est-à-dire s'il y a des salariés qui travaillent à moins d'un mètre, ils ne peuvent pas se lever les mains, à ce moment-là, il a une responsabilité.
Donc,
oui, c'est pour ça qu'il faut respecter les gestes barrières et les guides qu'on transmet.
Merci,
s'il n'a pas fait l'organisation qu'il fallait.
Merci Muriel Pénicaud d'avoir été l'invité de ce grand jury. Merci à Guillaume Roquette. Merci à Yves Verrier qui était donc en direct tout à l'heure. Merci à Laurent Lecor qui a assuré la technique à vos côtés, Madame Ministre. Merci à Pascal Choisy qui réalise cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour l'instant, il est quasiment 13h sur RTL.